Radio Kapi. Oh, Kapi.
C'est parti pour le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Dans une ambiance haute en couleur, au stade des martyrs, lors de la cérémonie d'ouverture officielle, le président de la République, Félix Tshisekedi, affirme que ces jeux constituent un symbole de solidarité de la famille francophone envers la RDC. Au Nord Kivu, les femmes des différentes associations du territoire de Lubero demandent l'implication de la chef de la MONUSCO dans la lutte contre les violences sexuelles dans cette zone en proie aux groupes armés. La journée mondiale contre l'hépatite, c'est le 28 juillet de chaque année. À Goma, l'organisation encadrement des personnes infectées par l'hépatite appelle le gouvernement à appuyer les campagnes de dépistage de cette maladie. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Patrick Amissi, coordonnateur de cette organisation. Mesdames et messieurs, bonjour et excellentes conditions d'écoute.
Je déclare ainsi ouvert le 9e jeu de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles.
Ça y est, le président de la République donne le coup d'envoi officiel des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa au stade des martyrs de la Pentecôte. Le tout dans une ambiance haute en couleur, marquée notamment par les défilés des athlètes et artistes représentant leurs pays respectifs. Je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par ces mots, Félix Tshisekedi accueille, au nom de tout le peuple congolais, les participants à ce grand rendez-vous international. D'entrée de jeu, il tient à préciser ce que ces jeux représentent pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi.
Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures.
Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces 9e jeux de la francophonie sont aussi un signe de solidarité de la famille francophone envers son pays, la RDC, victime de l'agression dans sa partie est. Ainsi, il profite de l'occasion pour témoigner sa reconnaissance envers les pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à ces rendez-vous. On l'écoute.
Ces 9e jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais, victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis.
Premier à prendre la parole hier vendredi au stade des martyrs, Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, explique ce que sont les jeux de la francophonie tout en traçant le chemin parcouru par ces rendez-vous depuis la dernière fois qu'il s'est tenu en Côte d'Ivoire. Christophe Lutundula.
En effet, les jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inextricable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte des 9e Jeux de la Francophonie menacé d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi les 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement.
Pour sa part, dans un discours aux allures poétiques, la Canadienne Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie et représentante personnelle de la secrétaire générale de l'OIF, loue le bienfait de ces grands rendez-vous que sont les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Elle exprime toute sa gratitude à la RDC d'avoir bien voulu organiser la 9e édition de ces Jeux. Caroline Saint-Hilaire.
C'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous au nom de la secrétaire générale de la francophonie. Je suis heureuse de m'adresser à vous au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux sont une ode à l'unité et à la diversité, un hymne à la créativité et à l'excellence. Ces Jeux transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sous une même bannière, celle de la francophonie.
C'est un dossier réalisé par Pele Kipela Mondo. Et à Kindu, dans le Maniema, le coordonnateur national du mouvement citoyen, le citoyen inconnu, demande au gouverneur ad intérim de cette province d'élever la mesure des fermetures des écrans géants placés par Augustin Matata Ponyo et Salomon Idide Lakalonda pour permettre à la population de se divertir. Selon Awazinengo Meme, c'est pour donner l'occasion à la population de Kindu de suivre ces grands rendez-vous, le 9e jeu de la francophonie qui se déroule pour la toute première fois dans notre pays depuis son indépendance. Awazi Nengo Meme est au micro de Florence Kizalunga.
La population du Maniema est d'abord démunie et il n'y a pas d'électricité chez nous. C'est pas tout le monde qui a un écran chez lui et nous voudrions à ce que les écrans géants qui ont été installés dans la ville puissent aider la population à suivre ces jeux-là. C'est un événement important pour notre pays. Le premier que nous ayons vu depuis l'indépendance de ce pays pour que 70 pays se regroupent à Kinshasa pour les jeux et nous avons des leçons que nous devons tirer de ces jeux-là, surtout le fair play, l'amitié et tout cela parce que le gouverneur a allégué qu'il s'agit de la sécurité de la ville et depuis que ces écrans sont installés, il n'y a jamais eu un incident quelconque et jamais connu un accident. Nous avons demandé à ce que les membres du conseil de sécurité puissent approcher le gouverneur pour qu'il puisse lever cette mesure de suspension de ces écrans géants pour que nous puissions être dans notre droit de suivre l'information et surtout suivre une information très importante qui concerne l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement les pays francophones qui vont se retrouver, même les pays anglophones vont suivre cet événement-là et le contenu de ces jeux-là, c'est une grande leçon pour nous parce que c'est une victoire diplomatique pour le chef de l'État.
Autre nouvelle, dans le territoire de Lubero Nord Kivu, les femmes des différentes associations féminines saluent l'impact de la présence de la MONUSCO dans la région. Au cours d'une rencontre avec la chef de la mission onusienne hier vendredi à Lubero Centre, ces femmes soulignent l'accompagnement dont elles bénéficient de la MONUSCO pour contribuer à la stabilité de la région. Toutefois, elles plaident pour un engagement des Bintou Keïta à lutter contre les violences sexuelles dans ces territoires en proie aux groupes armés. Françoise Kaindo de l'association villageoise d'épargne et de crédit de Lubero explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Depuis que la MONUSCO est chez nous à Lubero, nous remercions beaucoup la MONUSCO puisque nous avons reçu beaucoup de choses de sa part, dont la maison de la femme, le centre Mwanamke Kwa Amani na Usalama. Et de deux, nous avons reçu d'autres frais qui nous ont aidés à construire les marchés de Lubero. Nous avons reçu beaucoup de formations. Donc la MONUSCO a fait le renforcement des capacités dans toutes les couches sociales de la communauté de Lubero. C'est trop de choses que la MONUSCO a déjà fait de nous. Elle est en train de faire la protection de la communauté et dans tous les sens. Nous avons trop de problèmes que nous avons expliqués à madame la représentante de la MONUSCO. Nous avons trouvé qu'il y a ici chez nous les violences sexuelles, les violences basées sur le genre. Nous avons le problème de l'insuffisance des moyens pour garantir nos familles et nos ménages. Mais nous avons aussi un autre problème de l'insécurité ici chez nous. Et elle a déjà trouvé les problématiques que nous avons et elle nous a promis de faire des renforcements des capacités dans la communauté.
Parlons de la construction de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Le lancement des travaux est fixé au 2 septembre prochain, mais déjà les experts du gouvernement, de l'Office des routes et de l'Agence congolaise des grands travaux décident de procéder à son évaluation. Il s'agit bien entendu du projet de construction et modernisation de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué dans les Haut-Katanga. Hier vendredi, ici à Kinshasa, toutes les parties se sont accordées le fait qu'une stratégie de lutte contre la surcharge doit être définie, mais aussi sur la rédaction d'un accord avec la police pour la sécurisation des travaux. Paul Matindo.
Pour Romulus Kisambe, conseiller spécial du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, cette évaluation vient de rassurer le début des travaux de cette route d'intérêt économique pour le Haut-Katanga.
Il faut dire que cette réunion s'est tenue dans le cadre de la dernière ligne droite qui nous conduit justement au début des travaux de ce projet qui est bénéfique à la population à la fois du territoire de Kasenga, mais aussi des travaux salutaires pour l'économie de la province du Haut-Katanga, mais aussi de la République démocratique du Congo tout entier.
Pour sa part, Nico Zaou, directeur général de la CGT, il a été aussi question de faire l'inventaire du trajet qui reste pour concrétiser le projet.
Nous avons pu faire l'inventaire de tous les progrès que nous avons réalisés. Et nous avons fait également l'inventaire du trajet qui reste pour concrétiser le projet. Nous avons appelé toutes les difficultés et nous avons fait également ressortir toutes les opportunités que nous avons que présente l'espace ce projet.
Les travaux seront exécutés par l'Office de route. Ces tronçons, indiquent ses experts, va réduire de plus de 200 km le parcours Lubumbashi-Dar es Salaam par rapport à la traditionnelle sortie de Kasumbalesa.
Par ailleurs, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori dénonce les tracasseries militaires aux différentes barrières érigées par les FRDC sur l'axe Kasindi-Beni. Selon Mele Kimulala, le coordonnateur de cette structure citoyenne, ces militaires déployés dans la région se livrent à cette mauvaise pratique en faisant payer des taxes illégales aux conducteurs des mototaxis et des vélos. Il recommande aux autorités civiles et militaires de s'impliquer pour mettre fin à ces tracasseries qui, selon lui, risquent de décourager les candidats au retour dans la région. Mele Kimulala s'exprime au téléphone d'André Kitenge.
En quittant Kabalwa ou Nzenga pour se rendre à Apiutu Virunga, puis en quittant Bulongo pour se rendre à Virunga, il y a des barrières érigées par des militaires déployés dans la région et à ces niveaux, les passants sont obligés de payer des taxes illégales. Un conducteur de moto paye 1000 francs congolais et celui de vélo 500 francs. En tout cas, ça nous inquiète. Depuis le début de cette situation, il y a maintenant 2 à 3 semaines, nous sommes en pourparlers avec certaines autorités pour mettre fin à cette situation, mais en vain. Vous savait que la population a fui ces champs et ces villages. Et lorsqu'il y a un semblant de paix et que les habitants commencent à retourner dans leur milieu, surtout avec la présence des militaires là-bas, nous regrettons que la présence de ces mêmes militaires, nos frères, constitue maintenant une source de tracasserie. Comment allons-nous vivre dans cette situation? Nous demandons au commandant du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, l'administrateur du territoire et le chef des secteurs de s'impliquer pour que cesse cette situation car nous menons une vie de misère.
Actualité internationale.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a assuré le président nigérien déchu Mohamed Bazoum de l'indéfectible soutien des États-Unis et a indiqué que le coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide selon un porte-parole vendredi 28 juillet. Lors d'un appel téléphonique, le secrétaire Blinken a souligné que les États-Unis continueraient d'œuvrer pour assurer la pleine restauration de l'ordre constitutionnel et de la gouvernance démocratique au Niger, a indiqué le porte-parole du département d'État, Mathieu Miller, dans un communiqué.
L'invité.
À Goma, l'organisation Encadrement des personnes infectées par l'hépatite et PIHSOS, hépatite RDC, demande au gouvernement d'appuyer des campagnes de dépistage de cette maladie. Cela pour permettre aux personnes infectées de connaître leur statut et adopter un mode de vie responsable. Patrick Amissi, son coordonnateur, l'a dit en marge de la célébration hier vendredi 28 juillet de la Journée mondiale contre l'hépatite. Cette année, cette journée est célébrée sous le thème « L'hépatite ne peut plus attendre ». Patrick Amissi nous parle des hépatites dans cet entretien accordé à Rosalie Zawadi.
Monsieur Patrick Amissi, bonjour.
Bonjour, madame.
Pour vous, qui représente les thèmes de la Journée mondiale des hépatites cette année?
Pour nous, le thème de l'hépatite cette année, c'est l'hépatite ne peut plus attendre. Et nous, nous ne pouvons plus attendre. Parce que plus nous attendons, plus nous continuons à mourir. Là, nous nous posons maintenant la question, nous, en tant que malades, pourquoi est-ce que pour d'autres maladies virales, les autorités politico-sanitaires, les décideurs se mobilisent? Qu'en est-il pour nous maintenant?
Et c'est quoi l'hépatite?
L'hépatite, c'est toute inflammation du foie qui se solde par cirrhose ou cancer du foie. Il est connu que les hépatites, ça fait partie des maladies sexuellement transmissibles. Et là, je vais dire qu'il y a 5 sortes des hépatites. Nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et hépatite F, qui, d'ici là, peut-être les scientifiques vont confirmer ça. Dans toutes ces hépatites, c'est l'hépatite B et C qui sont vraiment très, très dangereuses parce que, eux, ça va se solder par cirrhose ou cancer, des fois, comme nous l'avons dit. C'est une maladie asymptomatique. Au début, dans sa phase d'incubation, il n'y a pas de symptômes. Ce n'est qu'à sa phase chronique que maintenant on pouvait commencer à voir les symptômes. Et parmi les symptômes, nous avons jaunissement des yeux, nous avons ballonnement des ventres, nous avons des fatigues généralisées et nous avons la perturbation des sommeils.
Quel conseil donnez-vous à la communauté à l'occasion de cette journée mondiale des hépatites?
Nous demandons à notre communauté d'aller se faire dépister. Ça, c'est un. Mais le problème qui est là, une fois se faire dépister, mais étant malade, on va recourir où, tout en sachant que le gouvernement n'a pas disponibilisé les médicaments. Je peux demander à la population, une fois dans votre famille, si quelqu'un est malade de l'hépatite, il ne faut pas le stigmatiser, il faut l'accepter. Et si le gouvernement ne disponibilise pas les médicaments, et vous, ma famille, vous commencez à me stigmatiser, c'est une façon de me dire que je meurs, parce que je serai non seulement traumatisé, je serai stressé et là, ça risque même d'augmenter ou d'accélérer ma maladie. Et là, je pourrais demander à la population de ne pas vraiment prendre beaucoup d'alcool. Parce que étant une maladie asymptomatique, une fois vous n'êtes pas dépisté et que vous prenez beaucoup d'alcool, vous risquerez de mourir avec cirrhose ou cancer des fois. Et là, on va juste attaquer que c'est l'alcool. Alors que c'est pas l'alcool, tu avais le virus bien avant que tu n'as pas pu connaître, que tu n'as pas pu maîtriser, et quand tu donnes l'alcool, quand tu donnes les aliments contenant le cholestérol, ça aggrave la maladie. Et au final, ça sera, non, non, on lui a donné du poison, on lui a fait ceci, c'est sa tante, c'est sa mère, non, non. Tu avais le virus de l'hépatite que tu n'as pas bien maîtrisé, tu as augmenté l'alcool, tu as pris les éléments contenant du cholestérol, et ça aggrave la maladie. Là, nous demandons vraiment à la population de modérer. Si vous n'êtes pas dépisté, modérez votre taux d'alcool. Si vous êtes dépisté positif aux hépatites, à l'hépatite B ou à l'hépatite C, il faut carrément arrêter l'alcool. Il faut carrément arrêter de prendre les aliments contenant le cholestérol.
Et pour terminer, M. Patrick Amissi, vous encadrez les personnes atteintes des hépatites. Quel message avez-vous adressé aux autorités du pays?
Au niveau de la ville de Goma, dans l'association, nous avons 420 malades des hépatites. Alors, avant peut-être de lancer un appel en tant que malade, en tant qu'association au gouvernement, nous voulons d'abord poser quelques questions au gouvernement. Pourquoi les dépistages restent toujours payants? Nous demandons au gouvernement pourquoi la vaccination contre l'hépatite B n'est pas prise à la naissance, le même jour de la naissance. Pourquoi? Pourquoi le traitement de l'hépatite B et C n'est pas gratuit? Pourquoi les autorités font semblant que les hépatites n'existent pas alors qu'ils savent que les hépatites existent? Pourquoi? Si c'est leur façon de nous dire d'aller mourir en silence, nous revenons sur le thème. L'hépatite ne peut pas attendre. Avec tout ce que nous avons comme gravité, on n'a même pas un programme national de lutte contre les hépatites. Nous avons ratifié la résolution de l'ONU sur la santé pour tous. Nous, on n'est pas figuré dans les tous là. Nous, personne vivant avec hépatite. C'est ce que nous demandons au gouvernement de prendre les responsabilités à main et de nous venir en aide aussi comme ils le font pour d'autres personnes vivant avec X ou Y maladie.
Monsieur Patrick Amissi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation d'encadrement des personnes infectées par l'hépatite EPH SOS Hépatite RDC. Merci.
Notre invité Patrick Amissi était interrogé par Rosalie Zawadi. Par ici prend fin cette édition du journal, coordonnée et supervisée par Pele Kipelamondo. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.